Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, mes frères, ce dimanche, nous entrons dans le temps de la Passion. C'est aussi le début du printemps, donc vous pourrez goûter ce symbole du début de la Passion et du début du printemps, symbole de renouvellement et porteur d'espérance. Et voilà que certains pourront faire grise mine en se disant que la dévotion à la Passion, à la croix, aux cinq plaies, à la couronne d'épines, au précieux sang, ce n'est pas leur dévotion favorite. Ce n'est pas mon truc, entendons-nous parfois. Ou alors c'est glauque, c'est gore, genre de commentaire un peu immature, il faut bien le dire. Ou encore émanant de certains courants dans l'Église, ce n'est plus une dévotion de notre époque. Comme si, parce qu'il y a eu une résurrection, il ne fallait plus en parler, comme si la Passion du Seigneur devait rester figée dans une image d'épinal et ne pas sortir du XIXe siècle. Avec cette erreur grossière d'enfermer la Passion dans le courant janséniste. Et pourtant la Passion, c'est plus qu'une dévotion, plus qu'une simple spiritualité qui nous est proposée et qui peut nous inspirer ou ne pas nous inspirer, plus qu'une question de goût ou de sensibilité. C'est un événement, c'est une période de la vie du Christ, c'est même un mystère que nous pouvons aucunement balayer dans la vie d'un catholique. Le but n'étant pas non plus de faire du dolorisme avec une vision seulement sanguinolente des choses, une vision malsaine, mais d'accepter cette réalité de la souffrance. Il ne s'agit pas d'un film de mauvais goût, bien de la réalité des tourments qu'a vécu notre Seigneur et de sa persécution. Car la Passion est un fait, et nous le proclamons dans le symbole des apôtres, il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort. Nous ne pouvons pas retirer cela. Cet article fait partie de notre foi, fait partie intégrante de notre foi. Dès les années 70, comme pour les thèmes du péché et de l'enfer, le thème de la Passion n'est pas le sujet qui a été le plus mis en avant. Et ce qui est étrange, même contradictoire avec le progressisme dans l'Église, c'est que le progressisme des années 70 a beaucoup insisté sur l'humanité du Seigneur. Le Christ était un homme. Or, quelle période de sa vie, quelle étape manifeste peut-être le plus cette humanité? C'est bien la Passion. Le Christ est un homme accusé, condamné, bafoué, flagellé et crucifié. C'est un homme et un homme qui souffre jusqu'à mourir et mourir comme un voleur. La souffrance est un signe, l'un des signes de son humanité. Et il serait bien étonnant de parler de cette humanité du Christ, de rappeler qu'il est un homme, tout en cachant ses souffrances et ses humiliations. De même, le progressisme a voulu cacher que la messe était un sacrifice. Or, la dimension sacrificielle que nous revivons à la messe nous rappelle bien que le Christ a vécu la Passion. Et les signes sont nombreux, car la Passion nous rappelle que le Christ est un homme. Mais bien sûr, il n'est pas moins Dieu quand il souffre. Les deux natures sont unies en lui, ce qu'on appelle en théologie l'union hypostatique. Et il est fou de se dire que Dieu souffre dans son humanité. Attention, ce n'est pas la divinité qui souffre, c'est l'homme. Néanmoins, la divinité est bien là. Elle n'a pas disparu, elle ne s'est pas évaporée, mais elle est bien là, unie à l'humanité dans le Christ en croix. Et devant cet apparent paradoxe, nous comprenons les doutes allant jusqu'au manque de foi qu'ont pu vivre les disciples. Se dire que cet homme, condamné et par terre, baignant dans le sang, traité comme un misérable, eh bien, c'est le Verbe incarné, c'est Dieu. La deuxième personne de la Sainte Trinité est quand même morte sur une croix. C'est fou de le réaliser. Il faut un sacré acte de foi pour le réaliser. Et ce n'est pas facile d'y croire. Dans notre religion si surprenante, nous avons la folie de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. C'est un mystère immense. Nous avons la folie de la nativité. Dieu s'est fait enfant en naissant dans une étable. C'est aussi surprenant. Nous avons la folie de l'Eucharistie. Dieu s'est fait nourriture, il faut le faire, et nous en revivrons très bientôt l'institution. Et nous avons aussi la folie de la passion. Il a souffert et a souffert jusqu'à la mort. Et cette souffrance est à notre image. Il s'est fait homme pour nous ressembler, pour être comme nous. Il souffre. C'est un prolongement de cette ressemblance. Il est comme nous. Il connaît la souffrance. Il ne connaît pas le péché, mais il connaît la souffrance. Il connaît la conséquence du péché, la conséquence du mal, sans pour autant l'avoir commis. Mais attention, attention, ne nous méprenons pas. Cela ne veut pas dire que la souffrance est une bonne chose en soi. Le chrétien ne doit pas chercher la souffrance pour la souffrance. Benoît XVI écrivait un jour « L'amour seul donne sens à la souffrance ». Le mal est accidentel, les philosophes le définissant comme une absence de bien. Le mal n'est pas justifiable en soi. Mais puisqu'il est là, le Seigneur agit en fonction. Il l'utilise pour en faire sortir un plus grand bien. C'est le classique Félix Culpa. Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Bien sûr, le père de l'Église qui a écrit cette phrase a fait un abus de langage. Car en réalité, une faute n'est jamais heureuse. Félix Culpa, heureuse faute, c'est une façon de parler, bien sûr. Quant au mystère de la croix, la question s'est posée parmi les théologiens. Fallait-il faire de la passion un passage obligé ? Notre Seigneur, puisqu'il est tout-puissant, du haut de son ciel, ne pouvait-il pas sauver l'humanité sans s'incarner et sans souffrir ? Était-il dans l'obligation non seulement de s'incarner, mais de souffrir et de mourir sur une croix ? À cette question, nous devons tenir compte de l'équilibre entre bonté et justice de Dieu. En Saint Luc, lors du passage des disciples d'Emmaüs, Jésus lui-même dit « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses ?» Comme si la passion était une étape nécessaire. Alors, était-elle vraiment nécessaire ? Eh bien, saint Thomas d'Aquin, distinguant plusieurs sortes de nécessités, parle de nécessité hypothétique, c'est-à-dire que le Seigneur pouvait nous sauver autrement, mais il est passé par la passion. Sommairement, Dieu pouvait nous sauver par un autre moyen que la passion, mais pour notre salut, il a opté pour la passion. La passion est ainsi le moyen le plus convenable, le plus adapté pour nous sauver, en raison d'une justice, d'une part, la réparation de nos péchés, et d'une bonté, de la bonté d'une rédemption d'autre part, équilibre, justice, bonté. C'est donc pour la bonté que Dieu nous offre le salut et pour la justice qu'il revient à l'humanité de réparer. La synthèse est dans l'incarnation. Quant à nous, qui ne sommes peut-être un peu trop habitués à la croix, à nous de réaliser ce bienfait de Dieu, qui est la passion, son généreux sacrifice, principalement ces deux prochaines semaines, en attendant la victoire de la résurrection, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.